Bienvenue sur Graines d'IUT, animé par des étudiants en BUT Génie Biologique, parcours agronomie de Digne-les-Bains. Notre émission est là pour vous divertir avec bonne humeur et spontanéité. Graines d'IUT, l'émission qui fait germer les idées.
Bonjour et bienvenue à tous sur Fréquence Mistral 99.3. On se retrouve dans notre émission Graines d'IUT pour parler avec vous de sujets qui nous inspirent et nous passionnent. Ce soir, on est 12 étudiants avec vous jusqu'à 20h pour animer votre soirée dans le cadre d'un projet de communication. Au programme avec nous aujourd'hui, c'est l'agriculture qui sera mise en avant. Nous vous dévoilerons quelques astuces utiles au quotidien, mais aussi des infos historiques sur l'agriculture d'aujourd'hui. Tout de suite, nous allons retrouver nos trois acolytes, Sarah, Jade et Céleste, mais juste avant, un peu de musique pour nous plonger dans l'ambiance.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mâles vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, de troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien, comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Donc, bienvenue de nouveau donc, sur Fréquence Mistral 99.3, à Graines d'IUT. Donc, on retrouve Jade, Céleste et Sarah.
Bonsoir.
Bonsoir.
Coucou.
Alors, je vais commencer. Donc, c'est Sarah qui vous parle. On va parler un peu des chiffres en agriculture. Donc, plus ou moins inquiétants, vous allez voir. Savez-vous quel est le nombre de chefs d'exploitation ou de co-exploitants qu'on retrouve en 2020? On en dénombre 500 000. C'est une diminution de 18% depuis 2010, donc c'est vraiment très important.
Mais qu'en est-il depuis l'après-guerre?
Ah, c'est une question qui est très pertinente, Céleste. En 1955, on dénombrait 2,5 millions d'exploitants, donc ça a vraiment fait un énorme bond, notamment dû à l'industrialisation, à l'augmentation de la taille des exploitations, mais aussi parce qu'il y a pas, et enfin il y a très peu de reprises chez les jeunes aujourd'hui. D'ailleurs, ça me fait rebondir. Selon vous, quelle est la moyenne d'âge chez les agriculteurs ?
Moi, je pense, je dirais 45 ans.
Moi, je dirais une bonne cinquantaine quand même.
Je dirais 40 ans.
Eh ben, figurez-vous que 43% des exploitants ont plus de 55 ans. Donc ça, ça signifie que sur 3 agriculteurs qui partent à la retraite, seulement un seul jeune s'installe. Donc c'est un chiffre qui est quand même vraiment inquiétant. Mais si on peut parler un peu de chiffres plus positifs en agriculture, le nombre d'exploitations en agriculture biologique a augmenté de 8,4% entre 2010 et 2020. Et ça montre bien une prise de conscience de la population sur le mode d'alimentation et c'est vraiment super.
D'ailleurs, petite question, parmi vous, il y en a qui voudraient devenir agricultrice après le BUT ?
Alors, personnellement, moi, je reste dans le monde de l'agriculture, mais ce serait plutôt pour faire technicienne d'élevage et conseiller nos agriculteurs.
Alors, personnellement, je suis issue du monde agricole, mais moi, j'ai plutôt envie d'accompagner le monde rural, mais en étant vétérinaire. Voilà, c'est un peu ma passion.
Alors, moi, j'aimerais bien devenir apicultrice, donc pour produire du miel de montagne de toutes fleurs, donc en Savoie. D'ailleurs, par rapport à ça, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que le miel se périme ?
Moi, je pense que non.
Moi, il n'a pas le temps de se périmer en général, donc voilà.
Je pense que je ne sais pas.
Eh bien alors, le miel ne se périme pas. En effet, il contient peu d'eau et un pH acide, ce qui empêche le développement des bactéries et des moisissures, bien évidemment. Et en plus de ça, il a des propriétés antibactériennes naturelles. Bien que le miel ne se périme jamais, il faut faire tout de même attention à son mode de conservation et il peut également cristalliser. Mais ce n'est pas grave. Il suffit juste de le faire fondre et vous retrouverez un miel liquide. Et pour la conservation, n'oubliez pas de le tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Eh bien, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'à un moment, j'ai regardé un reportage donc, sur la conservation du miel. Et donc, ils auraient retrouvé donc, dans d'anciennes tombes égyptiennes donc, des pots de miel vieux de plus de 3000 ans. Voilà, qui étaient encore parfaitement comestibles, d'ailleurs.
C'est un truc de fou, genre 3000 ans.
Ouais.
Et le miel se consommait encore.
Oh là là.
J'en profite pour ajouter que le miel possède de nombreuses vertus, hein, notamment des propriétés antiseptiques et antibactériennes qui permettent de cicatriser les plaies ou bien même d'apaiser les maux de gorge. C'est un très bon énergisant naturel, hein, un antioxydant et aussi donc il permet de participer au soutien du système digestif.
Toi, Céleste, qui t'y connais un peu mieux en apiculture, enfin, moi je suis un peu coquette, tout ça. Et est-ce que tu n'aurais pas une recette à base de miel pour la peau ou je sais pas?
Eh bien, alors, Sarah, pour toi, j'ai une petite recette de gommage qui mélange le miel et le sucre. Donc, il suffit simplement de prendre une cuillère à soupe de miel, de rajouter une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café d'huile d'olive pour le côté un peu nourrissant et hydratant. Tu mélanges le tout, tu te l'appliques sur le visage, il suffit juste de gommer les pommettes, de laisser poser 5 minutes et de rincer.
T'as déjà essayé ? Ça
oui,
marche bien ?
Oui, j'ai essayé et ça marche bien. T'auras un teint éclatant et une peau parfaitement lisse.
Oh, sympathique, j'essayerai, je te redirai.
Très bien, donc parlons maintenant d'un autre produit que l'on consomme presque tous les jours et qui, lui, doit bien être surveillé en termes de fraîcheur. Hein, donc on parle des œufs et on va tout vous expliquer.
Effectivement, est-ce que vous savez comment on peut lire la provenance d'un œuf ?
Alors moi je sais qu'il y a beaucoup de chiffres, mais c'est vrai que je ne sais pas trop à quoi ils correspondent.
Alors moi je sais que j'ai appris au lycée que le premier chiffre ça correspond au mode de production, voilà.
Effectivement, donc les premiers chiffres donc, ce sera sur le mode de production, donc on va de 0 à 3. Donc 0 c'est un œuf issu de l'agriculture biologique, 1 c'est un œuf donc, de plein air, et donc 2 c'est un œuf donc, au sol, donc ils sont juste à l'intérieur, et 3 ce sont les œufs donc, qui sont en cage. Donc les lettres qui suivent donc sur le petit tatouage qu'on retrouve sur la coque, ce sont donc les origines, donc le pays d'origine, donc FR pour la France, et les chiffres qui suivent, ce sont sur la spécificité de l'élevage, donc c'est-à-dire le lieu de l'élevage et le code de l'élevage.
D'accord, et du coup ça c'est des chiffres qu'on retrouve sur les œufs et aussi dans les boîtes, non ?
Exactement.
Et dans les boîtes aussi, il me semble qu'il y a les temps de cuisson des œufs, ouais, ça peut être sympa, oui, de le rappeler.
C'est vrai que voilà. Sur certaines boîtes, on a pas mal d'informations sur leur provenance. Ok.
D'ailleurs, j'ai des œufs chez moi depuis 2 semaines, mais je ne sais pas encore s'ils sont encore bons. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si ces œufs sont encore consommables ?
Eh bien alors Lucie, je vais t'expliquer ça tout de suite. C'est très très simple, c'est une méthode très simple. Tu prends un verre d'eau que tu remplis et tu mets ton œuf à l'intérieur. S'il coule directement, c'est qu'il est très frais, donc tu peux le consommer sans aucun souci. S'il coule mais qu'il flotte quand même un peu au milieu, il faut faire attention et bien le cuire. Et s'il remonte complètement à la surface, il n'est absolument plus consommable et donc il faut s'en débarrasser. Cependant, il faut quand même faire attention à la, date inscrite, de la date de péremption. Voilà. Mais c'est un moyen très efficace pour le détecter au cas où.
D'accord, merci beaucoup pour ces précieuses informations qui peuvent, je pense, être utiles à chacun d'entre nous.
Avec plaisir.
Cependant, juste faites attention parce que y a quand même les dates de péremption. Hein. C'est pas, faut pas se baser que sur ça non plus. Hein, on est bien d'accord, on veut pas vous intoxiquer.
Exactement, mais c'est un bon indicateur quand on a des œufs, par exemple, qui viennent directement de notre poulailler à la maison. Exactement, ou des choses comme ça. Parfois, on oublie de noter la date et donc c'est vrai que c'est très efficace.
Tout à fait. Donc c'est vrai que lire les codes sur les œufs, ça permet de consommer de façon plus responsable et de mieux choisir aussi la qualité de ce que l'on met dans notre assiette. Mais au-delà des œufs, il y a un autre élément essentiel pour avoir une alimentation saine et durable, qui est donc de manger des produits de saison.
Alors je me permets de prendre la parole parce que du coup moi j'ai un jardin, donc c'est vrai que toute l'année je mange de saison. Mais c'est hyper important. Voilà, on le rabâche tout le temps, on en parle souvent, mais savez-vous pourquoi c'est aussi important? Bah, je vais vous donner la réponse. D'une part, c'est d'un point de vue santé et médical, les fruits et légumes de saison, ils sont récoltés à maturité, donc ils contiennent plus de vitamines, plus de minéraux, et ils ont aussi des antioxydants. Voilà, donc contrairement à ceux qui sont cultivés hors saison, qui n'ont pas toutes ces propriétés finalement. Ça permet aussi la réduction des gaz à effet de serre, donc... dans un contexte actuel, c'est assez important quand même, puisque manger local et de saison, ça diminue la pollution qui est liée au transport, ainsi que l'usage d'engrais et d'énergie pour la culture hors saison, par rapport à la culture hors saison. C'est aussi avantageux pour nous consommateurs, puisque les produits de saison sont nettement moins chers et beaucoup plus abondants quand vous allez sur les marchés, par exemple. Et de plus, ils possèdent vraiment davantage de goût.
C'est vrai. Et pour faire un petit rappel donc, sur les fruits de saison actuels, donc on aura la clémentine, la mandarine, l'orange, pomme et poire. Et pour nos légumes, donc nous avons la betterave, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, poireaux, endives, épinards, pommes de terre et carottes et encore bien d'autres.
Ah, mais donc ça fait des super légumes pour faire un pot-au-feu.
Exactement, j'y pensais.
Pour se retrouver avec les personnes qu'on aime et partager un bon moment.
Très bien, donc merci beaucoup d'avoir partagé quelques astuces et informations pratiques sur le quotidien. Faisons maintenant un petit saut dans le passé pour découvrir comment certaines pratiques agricoles actuelles trouvent leurs racines dans des choix historiques. Mais juste avant ça, on fait une petite pause avec Le Loir-et-Cher de Michel Delpech et on se retrouve juste après.
Cheval à hibou, ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson, tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous. We'll be right back.
gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dealer avec nous. On dirait que ça te gêne.
Donc on se retrouve dans Graines d'IUT sur Fréquence Mistral 99.3. On se retrouve donc maintenant pour parler des empreintes laissées par l'histoire dans l'agriculture d'aujourd'hui. Donc tout à l'heure, en effet, on a parlé des carottes. Hein. Il faut savoir que c'est le deuxième légume le plus consommé en France, après la tomate, et elle appartient donc à la famille des apiacées.
Effectivement. Est-ce que vous saviez que les carottes ne sont pas initialement de couleur orange ?
Ah bon ? Bah ouais, c'est assez étonnant de savoir que... Ouais. Moi, j'ai déjà entendu parler des carottes rouges,
oui,
mais peut-être que ça n'a rien à voir, je ne sais pas.
Eh bien, en fait, les carottes rouges, c'est l'appellation un peu rurale de la betterave, tout simplement.
D'accord.
Pour ce qui est donc de nos carottes oranges, donc celles qu'on mange actuellement et qui sont riches en carotène, elles proviennent donc de quatre variétés sélectionnées à la Renaissance en Hollande pour leur qualité esthétique et gustative. Les premières carottes cultivées, elles ont été trouvées donc en Perse et en Asie. Elles étaient violettes, rouges ou jaunes, et dont les multiples hybridations ont permis d'obtenir cette couleur orange il y a près de 600 ans.
Ouais, c'est étonnant pourquoi on a choisi la couleur orange. Il y a un rapport historique, c'est assez étrange, quoi.
Et bah en fait, c'est nos amis les Hollandais qui auraient favorisé la couleur orange pour rendre hommage à la famille royale Orange-Nassau. Ce croisement aurait d'ailleurs permis d'améliorer donc la saveur, les textures et la résistance donc de nos carottes. Et donc ce n'est que tardivement, donc après le 19e siècle, que les Français ont découvert donc cette version de la carotte orange.
Vous aimez bien les carottes ?
Apparemment, ça rend aimable.
Ouais, je crois.
Exactement, ça améliore le teint de la peau aussi.
Ça rend les fesses roses.
Bon, on a dit 600 ans, mais 600 ans, ça fait un petit bout de chemin. Ça fait long quand même, hein, 600 ans.
Et oui, 600 ans, ça fait long, mais figurez-vous qu'il existe d'autres pratiques agricoles qui remontent à également très longtemps. Et j'ai découvert justement il n'y a pas longtemps que le principe de l'aquaponie et de la permaculture remontait aussi à 600 ans, donc au 15e siècle.
Mais tu parles de l'aquaponie, Lucie, mais je t'interromps, hein, mais moi je sais pas trop ce que ça veut dire, je sais pas trop en quoi ça consiste. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît ?
Bien sûr, donc l'aquaponie, ça va être un mélange entre l'aquaculture, l'élevage de poissons, et l'hydroponie, donc le fait de cultiver des plantes en hors-sol. Et en fait, dans ces pratiques agricoles, c'est les déchets des poissons qui vont fournir des nutriments aux plantes, et les plantes qui vont, elles, permettre justement de filtrer de manière naturelle l'eau pour les poissons.
Et donc... T'as aussi parlé de la permaculture, en quoi ça consiste aussi
Je me permets de répondre parce que du coup on a vu la réponse en cours. C'est une approche de l'agriculture, donc plutôt agroécologique. Donc c'est une éthique qui s'inspire du fonctionnement des écosystèmes pour concevoir des cultures autosuffisantes dans le respect de l'environnement et des êtres vivants. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité, hein, on en parle beaucoup en ce moment. Lucie, je sais que tu étais plus orientée vers ce sujet. C'est quoi le lien avec le 15e siècle ? Pourquoi ça remonte d'aussi loin en fait ?
Alors oui, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question hein, par rapport au 15e siècle, quel est le rapport en fait ? Il se trouve que ce sont des modes de culture agroécologique actuels, mais qui en fait, en effet, se développent de plus en plus par rapport aux enjeux environnementaux. Mais ils s'inspirent en réalité d'une technique traditionnelle qui remonte à la civilisation des Aztèques au 15e siècle. Et en fait, ça s'appelle la technique des chinampas.
Les quoi ? Je suis désolée Lucie, mais je crois que j'ai pas très bien compris le mot que tu viens d'employer.
Oui, alors c'est un mot qui est un petit peu compliqué à prononcer. C'est les chinampas, les chinampas. Donc en fait, c'est un système agricole qui est assez ingénieux et qui a donc été mis en place par les Aztèques pour maximiser les terres cultivables. Donc là, on est, attention, dans la vallée du Mexique, hein, près de Mexico, et notamment sur un lac qui était le lac Texcoco. Donc en fait, les Aztèques construisaient des îles artificielles flottantes pour faire face justement au manque de terres arables, puisqu'ils étaient à proximité du lac Texcoco. Donc c'était plutôt un milieu de type marécageux. Et donc ça leur a permis de produire des cultures abondantes et surtout de nourrir une population qui était croissante à cette période.
Ah, c'est super intéressant pour l'époque. Enfin, l'ingéniosité, c'est vraiment... C'est un truc de fou, mais tu pourrais pas nous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne ? Tu nous as parlé des îles flottantes, c'est hyper intéressant.
Tout à fait. Ben, en fait, c'est une île flottante qui est formée en fait par un tapis de branches et de roseaux qui sont délimités chacun par des piquets, donc ça fait un carré, avec des piquets de bois qui sont plantés dans l'eau. Par-dessus, on va rajouter donc des couches de boue et de végétaux qui proviennent donc du fond du lac Texcoco, hein, on rappelle, qui est un milieu marécageux. Et donc, ça permet de former un terreau fertile sur lequel on va planter les cultures. Et donc, ces petites îles flottantes étaient donc ancrées au fond du lac Texcoco grâce à des arbres qu'on appelle des aguejotes, qui sont une variété de sol dont les racines profondes permettaient donc justement de stabiliser cet ensemble, ces petites îles flottantes.
Donc en fait, pas besoin de se soucier du manque de pluie, puisque finalement l'irrigation sera déjà présente et naturelle. Et en plus de ça, ça permet aussi la mise en place d'un système de fertilisation assez performant avec les boues du lac.
Tout à fait, on a des boues qui vont être donc très riches en nutriments, avec, comme on l'a dit, le principe de l'aquaponie, donc avec les déjections des poissons, qui permettent de faire un moyen de fertilisation très performant et très économique donc, pour le temps des Aztèques, et très ingénieux surtout.
Okay.
Merci Lucie pour toutes ces explications, mais du coup, actuellement, d'un point de vue agroécologique, on se pose aussi beaucoup de questions sur l'avenir. Et du coup, c'est vrai que cette association entre les végétaux, les poissons, pour l'irrigation et la fertilisation, est-ce que ça existe encore de nos jours? Est-ce qu'on utilise cette technique encore dans l'agriculture actuelle ou c'est quelque chose qui est terminé et qui s'est fait qu'avant?
Alors, en effet, c'est un système qui a quasiment disparu, hein, c'est sûr. Il existe néanmoins certains chinampas dans la région du Xochimilco, donc toujours près de Mexico. Hein. Mais voilà, évidemment, il faut un milieu marécageux avec certaines conditions. Et puis les techniques agricoles ont évolué, donc on s'en est éloigné au fur et à mesure.
Alors, j'ai pas très bien compris. C'est plusieurs îles sur le lac ou c'est une seule même île sur tout le lac? Il y a plusieurs cultures, ils diversifient les cultures
Oui, alors on a en effet plusieurs cultures et ça va être des petits îlots en fait qui sont sur le lac. Et les Aztèques, les civilisations aztèques se déplaçaient avec des canoës, des barques, etc. et naviguaient entre les cultures. Donc on avait différents types de cultures. Ça pouvait être du maïs, on avait aussi du haricot rouge. C'était très diversifié.
Ok, et en ce moment, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du Mexique, notamment des sujets pas forcément très joyeux, comme la déforestation, les problèmes d'irrigation, d'autonomie alimentaire. Mais est-ce que ces chinampas, ils peuvent pas pallier ces problèmes? Est-ce que ça peut pas être une solution ou on peut pas s'en inspirer, quoi?
Alors, c'est vrai que les chinampas pourraient refaire surface. Donc, notamment, j'ai vu une étude récemment. Il va y avoir une intervention d'une équipe de chercheurs qui vise à utiliser ces techniques pour redynamiser le développement. Alors, tenez-vous bien, redynamiser le développement des mangroves. Est-ce que vous savez ce que c'est une mangrove?
Alors non, c'est vrai que c'est quelque chose, je sais pas du tout à quoi ça correspond.
Ouais, moi non plus, enfin, je connais de nom, mais c'est vrai que c'est un peu... Non, je connais pas très bien.
Ok, alors, les mangroves, c'est un écosystème un petit peu complexe qui se développe le long des côtes, des zones tropicales et subtropicales. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça accueille une flore qui est finalement peu diversifiée. Donc on a des arbres qui sont des palétuviers, mais c'est une faune qui est très très riche. Et donc en fait, ces mangroves-là permettent de réduire l'impact des inondations, de filtrer l'eau. Et donc c'est aussi intéressant parce que pour répondre aux enjeux environnementaux actuels, c'est un écosystème qui stocke le plus de carbone au monde.
Okay.
Donc c'est très intéressant justement de conserver ces écosystèmes. Et c'est dans cet objectif-là que les chinampas pourraient justement intervenir.
Ok, et ben merci beaucoup Lucie pour cette information. Moi je voulais rebondir sur un autre sujet parce que là on parle quand même du Mexique, de la souveraineté alimentaire et des choses comme ça. Et donc on est quand même dans des pays qui sont défavorisés. Et du coup, il y a aussi un sujet qui est à l'heure actuelle, donc c'est la création des OGM. Je voulais qu'on en discute un peu par rapport à ça.
Qu'on fasse un débat, savoir ce qu'on pense, parce qu'on a vu un peu les pour et les contre en classe, on les a étudiés. Et c'est vrai que partager ça avec les gens qui connaissent un peu moins, bah, ça peut être intéressant pour montrer qu'il y a des désavantages, mais il y a aussi des choses positives à en tirer. Voilà.
Moi, je voulais juste vous parler d'un exemple, justement, qui m'a quand même touchée, parce que c'est vrai que les OGM, ils ont leur pour et leur contre, et bien sûr, voilà. Mais d'un point de vue scientifique, c'est vrai qu'en Inde, en fait, ils se sont rendus compte que les gens avaient des problèmes de vue. et que leur vue baissait et qu'ils avaient des problèmes de vision dès leur plus jeune âge. Et donc, pour pallier à ça, en fait, ils se sont rendus compte que les carotènes, donc qui sont également présents dans les carottes, mais également dans les jonquilles, étaient bénéfiques pour la vue et pour l'amélioration de celle-ci. Ils ont décidé d'en faire quelque chose de bien, justement, pour aider ces populations.
Comme on sait, le principal aliment là-bas, ça va être surtout le riz. Et du coup, ils se sont dit pourquoi on ne va pas cultiver une variété de riz avec cet extrait de jonquille, donc la bêta-carotène. Et donc maintenant, le riz est complètement... c'est une grosse partie de la production. Et ce qui fait que maintenant, ils mangent quasiment que du riz avec cette bêta-carotène et que ça permet l'amélioration de la vue. Et ça a été prouvé scientifiquement, l'amélioration de la vue des Indiens.
Oui. Voilà, dans les écoles, etc., ils se sont vraiment rendus compte que les étudiants, ils voyaient mieux, ils arrivaient mieux à comprendre et à apprendre.
C'est vrai que oui, pour le coup, on a vu surtout des effets sur les futures générations, en fait, qui a vraiment eu un effet
c'est vrai.
Sur les jeunes aussi.
Mais voilà, après, ça comporte aussi son lot de problèmes. On en entend, c'est toujours d'actualité, notamment avec les accords Mercosur. Les agriculteurs français se sont un peu révoltés cette année, hein. Ça s'est vu, par rapport au fourrage OGM qui sont donnés aux animaux, etc. Enfin, il y a énormément de contraintes. Je sais pas ce que vous voulez qu'on en discute un peu.
Justement, par rapport à ça, c'est vrai que c'est des produits qu'on connaît pas. Ils sont modifiés génétiquement et donc c'est vrai que ce génome qui se promène dans la nature, qui se retrouve dans les animaux et qu'on consomme nous après, c'est vrai que pour le coup, d'un point de vue scientifique, là également, les effets indésirables n'ont pas été prouvés. Donc on ne sait pas trop ce que ça pourrait faire.
Oui, mais les OGM peuvent aussi pallier, peuvent être une solution pour résoudre le glyphosate, les intrants, des problèmes d'irrigation, etc. Enfin, ils ont trouvé des solutions, donc est-ce qu'il vaut mieux avoir... quelque chose qui est génétiquement modifié ou quelque chose qui est entre guillemets plein de produits chimiques, ça dépend de la vision.
C'est vrai que
la vision des choses, quoi.
Qu'entre les deux à choisir, c'est compliqué, quoi, parce que c'est sûr que de se retrouver avec 30 produits phytosanitaires ingérés, on se demande lequel est mieux à voir après dans le temps, mais c'est vrai que pour pallier par exemple au réchauffement climatique avec la sécheresse ou des choses comme ça, ça peut être aussi un avantage économique.
Par exemple, une pomme, ça subit environ 35 traitements, donc c'est vraiment énorme. Alors que s'il y avait des choses qui étaient réfléchies, on pourrait peut-être faire en sorte de ne plus avoir de traitement, mais avoir une pomme qui est très adaptée. Parce que manger la pomme et les 35 traitements qui vont avec, ça a aussi des conséquences sur le corps qu'on ne connaît pas encore.
Exactement, c'est ce qu'on appelle aussi l'effet cocktail. C'est par exemple, la pomme, elle contient 35 traitements, mais la banane que vous allez manger juste après, elle en a peut-être reçu 25. Et c'est ce mélange aussi de pesticides en fait, à l'intérieur de notre corps dont on ne connaît pas... les effets sur le long terme.
Oui, et pour poursuivre sur l'OGM, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'études qui ont démontré que l'OGM était néfaste à notre santé aussi.
Oui. Bénéfique.
Voilà, il n'y a pas eu de bénéfique pour le riz après sur les avenirs.
Il faut faire attention quand même. Mais c'est pour ça que c'est aussi important de manger des fruits et des légumes de saison et locaux.
Comme on l'a dit précédemment, oui, exactement.
Voilà, pour pallier aussi ce fait d'avoir des produits phytosanitaires de masse.
Voilà.
Et merci pour ces interventions.
Oui, je pense qu'on va arriver à terme à la fin de cette émission. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés sur Fréquence Mistral 99.3. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous et surtout que vous avez appris plein de nouvelles choses. Surtout, n'oubliez pas, si on devait retenir de cette émission, nos choix alimentaires et agricoles ont un impact sur notre santé et sur l'environnement, que ce soit en lisant simplement un œuf ou en choisissant des produits de saison ou bien même en s'intéressant à l'agriculture de demain. Nous avons tous un rôle à jouer. Donc nous vous souhaitons une bonne soirée et nous vous laissons tout de suite avec la dernière chanson pour terminer, qui est Vivre de Michel Berger, avant d'écouter le prochain groupe de Graines d'IUT.
Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre. Il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin, et je me sens mieux dehors. Vivre. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille, est tous partis de rien. Vivre. Torrent, ruisseau, faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. Plante, plante, grimpez. Sève, rentre dans nos corps. Venez danser sur la mort. Et vivre. Soleil, terre, forêt, les plaines. Entrez dans le sang de nos veines. Nous devons devenir forts. Nous devons vivre. Din, 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 da. Les tambours et les drapeaux. Il ne nous reste qu'un mot. Vivre. Petit caillou dans ma main, pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre. Dieu, Dieu, écoutez-nous, nous relevons votre défi et nous lançons notre cri. Vivre. Écoutez la folie.